Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine électoral. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler du genre dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Allez bien, pour en parler, nous recevons Madame Anne-Marie Mukwayanzo Pundu, secrétaire exécutif provincial de la CENI, ville de Kinshasa. Madame Anne-Marie, bonjour.
Bonjour, Monsieur Kachama.
Merci d'avoir répondu à notre invitation dans ce magazine électoral qui s'intéresse aujourd'hui au genre dans le processus électoral en RDC. Vous voulez participer, appelez-nous au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Alain Goy à la mise en onde, Tati Mapoukou réalise cette émission, Marcel Ngoumoumbalakeba à la coordination sous la supervision d'Etina Salama. Au micro, Jody Daniel Keshama, bienvenue à tous.
À Kananga, sur 93 FM.
L'invité. Bien. Le 23 décembre 2018, les Congolais sont appelés aux urnes pour élire le candidat président, les députés nationaux et provinciaux. Cependant, l'opinion se pose certaines questions, notamment qu'est-ce que le genre dans le processus électoral ? Y a-t-il une différence entre genre et équité dans un processus électoral ? C'est quoi le genre dans le processus électoral ? Eh bien, nous aurons des réponses tout à l'heure à toutes ces questions avec notre invité que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau, Madame Anne-Marie Mukwayanzo Pundu, secrétaire exécutif provincial de la CENI, ville province de Kinshasa. Encore une fois, bonjour Madame Anne-Marie.
Bonjour Monsieur l'animateur.
C'est quoi le genre dans un processus électoral?
Et quand on parle du genre, en général d'abord, c'est une approche, c'est une façon d'analyser une situation et une approche qui amène à ce qu'on puisse prendre en compte le genre humain, je peux même dire, et toutes les parties prenantes dans un processus, toutes les parties prenantes dans une activité, dans une action qui doit être menée dans une communauté donnée. Mmh. Alors, pour le cas ici présent du processus électoral, quand on parle du genre dans le processus électoral, c'est justement la prise en compte des hommes et des femmes intégralement dans le processus, dans l'évolution du processus, dans la mise en œuvre du processus, de l'amont jusqu'en aval, pour que ce processus soit vraiment inclusif.
Donc, c'est-à-dire, quand on parle du genre, il faut plus parler de l'implication des hommes et des femmes à tous les niveaux.
Oui, l'implication des hommes et des femmes qui soit beaucoup plus équitable. Donc là, l'approche permet à ce que on puisse, à chaque étape, à chaque niveau de participation ou niveau d'exécution d'une opération, qu'on puisse savoir comment est-ce que les hommes et les femmes participent à la réalisation de cette opération, de cette étape d'activité, et comment est-ce que on prend en compte cette différence là, entre les hommes et les femmes, pour que tout ce qu'on pourra faire puisse c'est avoir toujours à l'idée que toute action qu'on mène, c'est fait pour les hommes et les femmes, donc tous deux doivent participer de la même manière à la réalisation et à la réussite de l'action qu'on est en train de mener ou de l'opération qu'on est en train de faire.
On parle souvent de la discrimination positive. Qu'est-ce que cela veut dire?
Oui, quand on intègre cette notion de discrimination positive, c'est seulement dans les stratégies pour chercher à ce qu'on puisse remonter un peu le niveau de participation des femmes, parce que c'est le cas ici présent, pour que le niveau de participation des femmes soit élevé, qu'ils puissent atteindre un niveau équitable avec les hommes. Et dans les stratégies, c'est là qu'on peut parler de la discrimination positive, c'est-à-dire la discrimination en soi est quelque chose déjà de péjoratif. Quand on dit qu'on fait de la discrimination, c'est-à-dire on fait une différence là qui n'est pas bonne, si je peux dire ainsi. Voilà. Mais maintenant, ici, pourquoi on ajoute positif? C'est parce que ce qui n'est pas, en principe, bon à faire, on le fait parce que c'est une solution pour permettre à ce que une frange là des personnes soit aussi plus soit élevée et favorisée pour que ça soit qu'ils se mettent au même diapason que l'autre frange. Donc c'est pour ça que on dit que cette discrimination est positive. Donc elle est pas punitive.
Prenons par exemple dans les cas de la présidentielle, est-ce qu'il y a on constate qu'il y a pas il y a peu de femmes même dans la députation nationale et provinciale, on se demande combien de femmes se retrouvent. Est-ce qu'on peut parler de la parité déjà dans ces cas-là du genre?
Bon, ici
dans ces cas de figure.
Oui, pour les cas de figure ici, on ne peut pas parler d'une parité, parce que la parité nous amène à un partage 50-50, si je peux le dire. Mmh. Donc c'est 50-50. Mmh. Or, ici, on n'est même pas à 50, même pas à 30, comme la conférence de Beijing l'avait souhaité.
Oui.
Et on est même en deçà de 10. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas parler de l'équité du genre ni même d'une participation, parce que là, on sent vraiment qu'on est en deçà.
On est en deçà, oui. Y a-t-il une différence entre genre et équité dans un processus électoral?
Je disais, le genre en soi, c'est une approche d'analyse qui nous amène à chaque fois qu'on est en train de mener une action, de voir toujours s'il y a un équilibre entre les hommes et les femmes dans leur participation, dans tout ce qu'on est en train de faire dans une société donnée.
Mmh.
Donc ici, pour le cas, quand on parle maintenant de l'équité, l'équité n'est qu'une des stratégies pour que ça puisse nous amener à atteindre cet équilibre-là entre les hommes et les femmes. Donc, dans le cadre ici présent, on va parler de l'équité, on va parler de l'égalité, on va parler de la justice, donc tout ce qui peut nous aider à mieux faire cette analyse-là, à mieux voir comment atteindre cette participation équitable entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui entre maintenant dans les stratégies et dans les conditions pour arriver à atteindre vraiment le genre là comme on le souhaite.
Voilà. Nous parlons aujourd'hui du genre dans les processus électoraux. Qu'est-ce qu'on entend par genre dans le processus électoral en République démocratique du Congo avec Madame Anne-Marie Mukwayanzo-Pundu, secrétaire exécutive provinciale de la CENI, ville-province de Kinshasa. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Y a-t-il au pays des engagements pris par le gouvernement pour soutenir le genre, Madame Anne-Marie?
Oui, moi je crois que notre pays, la RDC, c'est un de ces pays-là qui a quand même franchi un cap assez élevé. Parce que aujourd'hui, le genre est consacré même dans notre constitution. Quand dans le préambule, là, on parle déjà des droits des citoyens et on évoque déjà la question du genre.
Mmh.
Et dans l'article 14 et l'article 15, là, c'est clairement libellé que dans tout ce que on entreprend au pays, à tous les niveaux, que ce soit national, provincial, local, on doit tenir compte de la parité homme-femme. C'est déjà un niveau très élevé sur le plan des textes qui permet à ce que les femmes ou les hommes, disons, dans la recherche de cette équité, que l'on puisse déjà saisir cette opportunité parce que la loi déjà le permet.
Mmh.
Donc c'est une grande opportunité et c'est vraiment un des pays aussi qui est très avancé par rapport au texte.
Donc notre gouvernement soutient les gens,
Bien sûr.
On peut le dire ainsi.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qui explique qu'on n'a pas, on voit une sous-représentation, disons, des femmes à tous les niveaux?
Oui, mais là, c'est d'autres paramètres qui interviennent, parce que dans la démarche, il y a le côté juridique. Là, quand vous avez déjà les lois, comme je disais tout à l'heure, ça vous donne des opportunités, parce que la loi vous favorise déjà. Donc, il n'y aura pas de barrières d'ordre juridique. Mais maintenant, les autres paramètres qui interviennent, il y a des pesanteurs culturelles, il y a des pesanteurs économiques, il y a des pesanteurs même sociaux, culturels que je peux dire, qui font que, je ne dirais même pas que les femmes seulement, nous sommes conditionnés, nous sommes socialisée de manière à ce que la femme se sente toujours inférieure à l'homme et la femme croit toujours à ce que, même les hommes aussi, parce que je parle de la socialisation,
oui.
Même les hommes, ils croient qu'il y a de ces domaines qui sont réservés aux hommes
comme la
et des domaines réservés aux femmes.
Oui.
Alors, en ce moment-là, pour briser cette barrière-là d'un domaine qui ne vous est pas accordé, ce n'est pas évident qu'il y aura beaucoup de femmes qui puissent avoir ce courage de briser cette barrière du côté des femmes.
Mais pourtant, du côté des hommes aussi. Il y a eu beaucoup de sensibilisation sur le leadership de la femme pour encourager les femmes à se représenter à tous les niveaux. Mais on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, un grand travail à faire.
Si, il y a un grand travail parce que si la sensibilisation ne touche que les femmes, c'est une sensibilisation qui est aussi à moitié faite parce que Le problème ici, j'insiste encore, c'est un problème de socialisation.
Mmh.
Donc c'est un problème qui est profond au niveau même de la société. Alors si la sensibilisation ne touche que les femmes sont sensibilisées, elles ont pris conscience qu'elles doivent aussi se battre pour participer, mais l'homme à côté d'elles, cet homme-là, qui a déjà gagné cet espace que toi tu voudrais venir
occuper.
Maintenant pénétrer et occuper.
Mm.
Vous voyez bien que cet homme-là ne te laissera pas la voie facile.
Mm.
Donc il faudrait que la sensibilisation puisse toucher aussi les hommes pour que ensemble hommes et femmes, on puisse prendre cette conscience-là que la société appartient aux hommes et aux femmes, on est partie prenante dans le développement de notre société, et que tous ensemble, on doit évoluer. C'est comme ça que vous voyez même les femmes candidates là, elles osent, mais timidement. Et celles qui peuvent oser jusqu'au bout là, il faut que vraiment elles soient bien armées, qu'elles soient même encadrées par les hommes, pour qu'elle puisse avancer. Si elle n'est pas encadrée par les hommes, c'est très difficile qu'elle puisse aussi percer, qu'elle puisse avancer. Donc c'est là la problématique même de cette participation de la femme.
Dans le processus électoral.
Voilà.
Bien, nous allons accueillir les auditeurs tout à l'heure. Je rappelle que nous parlons du genre dans le processus électoral en RDC avec Mme Anne-Marie Mukwayanzo Pundu, secrétaire exécutif provincial de la CENI, ville province de Kinshasa. En ligne, nous avons déjà trois auditeurs, Jérémy Mwamba de Lubumbashi, Michel Audin de Mbandaka et Dieudonné qui nous appelle depuis Yaro. On va commencer avec Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour également à madame Anne-Marie avec vous au studio.
Bien, Jérémy, quelle est votre
Je salue la pertinence du sujet, monsieur Jody. Allô?
Oui, on vous écoute.
Je pense que parler du genre dans les processus électoraux paraît pertinent, bien sûr. Mais cependant, le problème ne se pose pas lorsque les législateurs, ceux qui sont censés légiférer, arrivent à voter une loi quelconque en cette matière. Et cela n'appartient plus maintenant à ceux qui ont voté donc cette loi pour pouvoir entrer et pousser les femmes, par exemple, à être actives sur le terrain. Je pense qu'il se pose un problème dans notre pays et on est censé voir que les femmes ne semblent pas prendre un peu de l'envol. Il y a une évolution à deux vitesses. Ce sont les hommes plus qui sont visibles. Vous allez prendre un exemple, voyez un peu le nombre de candidats retenus dans notre pays quant à la magistrature suprême. Vous allez voir que la représentation femme n'est pas vraiment d'une coloration assez considérable. Donc, il suffit de voir que c'est plus les hommes qui sont en vue. Et pourtant, quand nous regardons dans les milieux universitaires, quand nous regardons dans les milieux sociaux, dans toutes les couches sociales, vous allez vous rendre compte que les femmes sont là, et elles étudient comme les hommes, et je me demande pourquoi cette matérialisation n'arrive pas à être postulée. Parce que je ne pense pas qu'il faut pousser une femme comme un chariot pour qu'elle arrive à participer à la chose de l'État ou à se faire candidat.
Je
pense qu'il faut mettre sur pied quelques mécanismes. Cependant, il faut, vous qui êtes médias, vous devez participer à la sensibilisation, ça c'est un point, parce que nous sommes censés croire que les médias est une force qu'on ne peut pas dénigrer. Et en plus de ça, il faut aussi l'implication du gouvernement, parce que le gouvernement est censé exécuter tout ce qui est élaboré au sein de l'hémicycle. Donc toutes les lois qui sont élaborées sont exécutées par le gouvernement. Donc je pense que le gouvernement doit être actif. Et également, la CENI doit mettre sur pied, un comité stratégique pour pouvoir accompagner et pousser les femmes, bien sûr. Parce qu'on voit que dans d'autres, sous d'autres cieux,
merci Jérémy.
La chose plus
d'accord. D'accord, merci.
On a vu un exemple dans un pays récemment en Éthiopie.
En Éthiopie, maintenant, il y a une femme qui a été élue à la tête du pays. Merci Jérémy. On va donner la parole à Michel Audin de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour Zobi, bonjour à Madame invitée ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Michel, quelle est votre question?
Voilà, j'ai trois petites préoccupations que je vais soumettre à Madame l'invitée. La première est celle de savoir, malgré les multiples participations, implications des ONG internationales, nationales ou locales, mais la participation aux élections de la femme congolaise reste toujours faible. Alors, c'est ça la première. La deuxième, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la participation de la femme soit vraiment massive à la prochaine élection? Et la troisième, l'État congolais est le maître, celui qui est le garant de la nation. Celui qui sait comment, celui aussi qui appuie les mouvements des femmes, tout comme ça, la journée de la femme, mais lors de la lors du remaniement, ou soit de la composition du gouvernement,
oui.
La participation des femmes reste toujours faible. Au lieu de donner, supposons, 10 ministères, femmes. Le gouvernement peut donner aux femmes même trois ministères. Oui, mais le gouvernement ne favorise même pas les femmes, donne parfois un ou deux ministères aux femmes. C'est ça, ce qui corrige aussi les femmes.
Donc, d'accord, merci Oda. D'accord, merci pour ces préoccupations. Nous parlons du genre dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Dieudonné, vous êtes à Arou et Maître Gaston de Kinshasa. Je vais vous demander d'être beaucoup plus bref dans vos interventions. Dieudonné, bonjour et quelle est votre question?
Bien, c'est Dieudonné du territoire d'Arou, Pessima de Kandé. D'abord, pour la première fois, dans mon premier intervention, j'ai demandé d'abord à la femme qui est notre éditeur, vraiment, j'ai le courage davantage pour son intervention, parce que c'est très pertinente. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Nous voulons que le gouvernement puisse garantir ces gens-là dans tous les ministères, parce que c'est pour eux que les femmes sont négligées dans tous ces ministères-là. Pourtant, ce sont elles qui sont vraiment compétentes pour juste diriger. Nous avons le cas de certains mamans chez nous ici, même du passage hier, qui ont postulé. Je les ai beaucoup encouragées parce que elles ont vraiment les soucis de notre pays. Il ne faudrait pas que les femmes soient négligées. Il faut alors que les femmes puissent alors s'estimer. Il ne faudrait pas que les femmes puissent se sous-estimer. Vraiment, je les encourage vraiment de participer dans tous les ministères et d'être toujours visibles par-ci, par-là. Et que le gouvernement octroie vraiment cet avantage-là. Je vous dis, je vous apprends, c'est bien de donner des territoires d'Aro et de Kandoué.
Merci. Et Maître Gaston de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jérémy.
Quelle est votre question, Maître Gaston?
Bon, j'ai dit, je pense que vraiment, sans vous mentir, nous parlons de la participation, je pense que la participation politique, qui est un terme plus large, dans le sens universitaire du terme. Alors, quand on parle, il y en a de plusieurs manières, mais là, vous prenez plus l'aspect participation directe, et surtout ce qui concerne les élus, ceux qui peuvent être élus, mais aussi vous parlez aussi des processus. Hein, j'ai bien genre dans les processus électoraux.
Voilà.
Le processus n'est pas seulement, à mon avis, les candidats qui ont concouru, veulent concourir. Il y a aussi les électeurs, qui vont participer, qui vont voter, c'est là. Mais là, je voulais demander un peu à madame les taux, de femmes.
Qui se sont fait enrôler.
Oui, qui se sont fait enrôler, qui vont voter. C'est bien que les hommes, et je dirais aussi que c'est lié aussi à nos ethos. Surtout la politique dans le sens que vous parlez là. On voit les hommes là-bas, il y a vraiment plusieurs raisons, mais sans vous mentir, ces hommes-là sont mariés. qui sortent des maisons, dont les femmes, leurs femmes aussi influencent beaucoup dans les décisions qu'ils partent prendre là-bas.
D'accord.
Mais je voulais finir pour dire que, en réalité, la participation politique dans le processus, je pense que les femmes participent en masse. Hein. Il faut voir le processus électoral tel que ça marche là. La plupart des personnels, le personnel de la CENI, sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont employées dans les bureaux, partout où nous partons. Donc les femmes sont impliquées, mais au moins au sens que vous parlez là, la politique chez nous c'est la paire, hein, là ce sont les armes, mais les femmes ce sont elles qui bouffent l'argent de ces voleurs brigands politiques à la maison, et ils ne conseillent pas grand chose, parce qu'on ne voit pas les grands changements sur le plan du comportement de l'air, ils critiquent tout, mais là-bas c'est la violence, comme les femmes sont douces. Il n'aime pas
bon. Pareilles choses. Ça, là, c'est votre, point, là, c'est votre point de vue. Merci, Maître Gaston de Kinshasa. On va prendre Maître Moupila de Zongo. Bonjour.
Oui, bonjour, JR.
C'est jeudi. Nous parlons du genre dans les processus électoraux, Maître Moupila. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement?
Ok, merci beaucoup. J'ai tiens à saluer la maman Annie, parce qu'elle a déjà donné la définition à la question liée au genre. Mais j'ai quelques préoccupations à faire poser à maman Anne.
Lesquels?
Est-ce que Maman Anne parle au nom de la CENI ou elle est venue sensibiliser la population pour qu'ils puissent comprendre la question liée aux gens? Ça, c'est la première question. La seconde, si elle parle au nom de la CENI, est-ce qu'elle peut nous donner la disposition légale qui suggère cette question liée aux gens? La troisième, si un acteur ou bien des acteurs de processus électoral, comme la CENI, les partis politiques n'arrivent pas à tenir compte des gens, quelle est la conséquence, je l'ai dit quoi, par rapport à ça, sur le plan électoral?
D'accord.
Et la toute dernière question est celle-ci. Est-ce qu'elle sait que certains pasteurs refusent à ce que les femmes puissent prêcher à l'église, pendant que non, en prêchant, ils peuvent aussi parler des élections? Elle sait ça.
D'accord, merci. Madame Anne-Marie Moukoyanzo, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup et merci surtout à tous les auditeurs pour l'intérêt que le sujet présente. Nous allons essayer de répondre à quelques questions et je crois que nous serons complétés aussi par les auditeurs qui nous suivent parce qu'ils peuvent aussi avoir leurs idées, comme c'est un débat, c'est un échange,
voilà.
On peut le faire.
Jérémy Del Mumbashi veut savoir pourquoi on n'arrive pas à favoriser les gens dans tous les secteurs.
Oui, je l'ai dit quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi on n'arrive pas toujours à avoir cet équilibre, cette égalité, je peux même dire, entre la participation des hommes et celle des femmes.
Oui.
J'ai dit qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui doivent être pris en compte. Il y a entre autres la pesanteur socioculturelle, qui est le plus gros d'ailleurs, si je peux même considérer.
La place de la femme, c'est à la maison,
j'ai parlé de la socialisation.
Oui.
Nous sommes tous socialisés, c'est-à-dire nous avons tous reçu une éducation, je peux même dire secteur, qui nous a mis en tête l'homme et ceci, cela, et la femme et ceci, cela. Et c'est ça, cet effet de la socialisation qui traduit tout notre comportement dans cette question-là, de la parité dans cette question du genre. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait que le genre, c'est une approche d'analyse. Donc ça permet d'analyser tous ces effets-là, ces éléments-là, culturels, sociologiques et tout, qui font qu'il y ait cette différence dans notre façon de considérer ou de faire participer les uns et les autres dans le développement même de la communauté. Donc notre frère Jérémy doit savoir que je partage d'ailleurs presque tout ce qu'il a dit là par rapport à son analyse. Mais
oui.
Il doit savoir que nous avons été tous socialisés de la même façon et cette socialisation nous pèse sur les épaules et qui fait que ça fait traîner quand même certains efforts que ça
fait. Et qu'est-ce qu'il faut pour briser ces pesanteurs, Madame Anne-Marie?
Je crois que comme j'ai dit tout à l'heure, avoir déjà le cadre juridique, avoir déjà des lois qui favorisent cette parité-là, qui favorisent cet accès aux femmes dans la prise de décision, c'est déjà un grand atout. Mais à côté de cet atout-là, il y a des sensibilisations qui doivent se faire et qui ne se feront pas seulement à l'égard des femmes, j'insiste.
Mais aussi à l'égard des hommes.
Des sensibilisations qui doivent se faire aussi à l'égard des hommes. Oui. Or, jusqu'à présent, tout ce que nous faisons comme sensibilisation touche plus les femmes que les hommes. Mmh. Alors, vous êtes en train de marcher quand l'un a un pas, deux, trois pas en avance, l'autre là qui est resté en arrière, il n'est pas sur le même niveau que vous. Mmh. Donc les femmes peuvent être sensibilisées, mais tant que l'homme qui a été socialisé en même temps qu'elle, de la manière dont ils sont en train de vivre, n'est pas sensibilisé, donc ça sera toujours difficile pour qu'on puisse briser cette glace-là qui fait cette différence.
Et Michel Audin de Mbandaka dit que malgré l'implication des ONG, nationales comme internationales, la participation de la femme à la chose publique est toujours faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà, vous venez de répondre à la question. Il a même déploré le fait qu'on, même au niveau du gouvernement, il n'y a pas assez de ministères confiés aux femmes.
Oui, ça c'est un constat que nous tous nous faisons. Je vous ai dit, quand. Ici, maintenant, ça devient une question d'intérêt. Mmh. Quand on entre sur le terrain d'intérêt, là, personne ne regarde qui est femme, qui est l'homme. Et chacun se bat d'abord pour lui-même. Or, ceux qui sont déjà assis ne pourront pas accepter de se lever pour faire
pour
asseoir
laisser la place aux autres. Autres oui.
Alors, ce sont ceux qui sont debout, qui veulent s'asseoir, qui doivent doubler aussi des efforts là, dans le combat pour qu'ils puissent arriver à s'asseoir. Et c'est là que je souhaiterais que les actions qu'on mène dans ce sens-là, surtout pour ce qui concerne les nominations, par exemple, ne doivent pas attendre que quand les nominations sont déjà sorties, pour commencer à se plaindre, ah, on constate qu'il n'y a que deux femmes, il n'y a que trois femmes.
Donc il faut se battre pendant
qu'on est en train
de...
Oui, en amont, quand on est en train de préparer, c'est là,
listes,
donc, ouais. C'est là que le combat doit commencer pour que vous vous rassurez que vous avez vos interlocuteurs là-bas qui défendent la cause. Il y a des hommes genrés aussi, sensibles au genre et qui sont là, qui défendent aussi, et là vous pouvez espérer avoir une bonne solution. Et c'est là que je réponds aussi à celui qui demandait comment faire pour qu'on arrive quand même à soutenir les femmes, parce qu'elles sont là, elles font tout, et on les voit partout et tout, mais pourquoi est-ce que la participation est toujours faible?
Est toujours faible.
Comment faire? C'est impliquer les hommes dans dans ce combat de la femme pour sa participation, avoir des complices du côté des hommes. Mmh. Parce que ce sont ceux-là qui seront sensibles à la question du genre, qui pourront aussi défendre, au lieu de laisser seulement les femmes seules, parce qu'elles sont minoritaires. Vous pouvez prendre au Parlement, elles sont minoritaires quand elles veulent débattre une question sur le genre. Combien s'intéressent? Donc maintenant, il faudrait qu'il y ait aussi des hommes qui soient vraiment sensibles,
oui, voilà, dites,
sensibles au genre,
questions, oui.
Pour qu'ils puissent aussi défendre et prendre part quand on mène ce genre de discussions.
Qu'est-ce qu'on entend par genre dans le processus électoral en République démocratique du Congo? On en parle avec Madame Anne-Marie Mukwayanzo Pundu, secrétaire exécutive provinciale de la CENI, ville de Kinshasa.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Bien, nous parlons du genre dans les processus électoraux en République démocratique du Congo avec Madame Anne-Marie Mukwayanzo Pundu, secrétaire exécutive provinciale de la CENI, ville de Kinshasa. Alors, on a eu beaucoup de questions. Il y a un auditeur, Gaston, qui demande, quand on parle de la participation de la femme ou du genre, c'est pas seulement au niveau des postes de responsabilité, même parmi l'électorat, dans l'électorat. Alors, il voudrait savoir s'il y a beaucoup de femmes qui se sont enrôlées, par exemple, lors des travaux ou, disons, lors de l'enrôlement des électeurs, du processus d'enrôlement des électeurs. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Madame Anne-Marie?
Oui, là, je félicite vraiment toutes les femmes électrices, les femmes en âge de voter,
oui.
Qui ont participé massivement. à ce processus-là, à cette opération d'enrôlement. Mmh. Et on a constaté, quand on a... Je peux parler du cas de Kinshasa, par exemple, parce que je suis secrétaire exécutif de Kinshasa. Mmh. Quand nous avons commencé à évoluer dans le processus d'enrôlement pour Kinshasa, quand on est arrivé à mi-chemin, on avait constaté qu'il y avait déjà... les taux de participation des femmes étaient toujours un peu faibles par rapport aux hommes. Et quand on est arrivé à mi-chemin, donc on a vu, du coup, le taux de participation des femmes égaler
celui des hommes.
Oui. Et on a évolué comme ça pendant une bonne période là d'enrôlement là et tout. Mm-hmm. Et après maintenant, ça commençait à se stabiliser à ce même niveau. Mm-hmm. Et ça fait que les hommes maintenant ont dépassé légèrement. À Kinshasa ici, au moment où on clôturait l'enrôlement, on était à presque 48% de participation des femmes et 52% de participation des hommes.
Oui.
Mais la bonne nouvelle est quoi? La bonne nouvelle est que au moment où on a fait maintenant le nettoyage du fichier électoral, et on a constaté aussi à ce moment-là, après le nettoyage du fichier électoral, le taux de participation des femmes a aussi légèrement augmenté, parce que vous comprendrez que les femmes ne sont pas dans toutes ces histoires
d'aller se faire enrôler deux, trois fois.
Et ceci, et cela, vous voyez.
C'est plus les hommes qui sont dans ça. D'accord.
Donc, alors, ça a vraiment bien joué sur cette participation lors de l'enrôlement des femmes.
Avant de répondre aux autres questions, on va accueillir à trois auditeurs en ligne, Bindou Maumbi de Masisi, Marcel Boto de Kananga et Zenon de Kinshasa. Merci d'écouter ce magazine électoral qui s'intéresse aux gens dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Bindou Maumbi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bindou, soyez bref dans votre intervention. Quelle est la préoccupation par rapport aux gens dans le processus électoral?
Oui, merci, messieurs les journalistes. Lorsqu'on parle déjà dans le processus électoral, qu'on voit aussi dans tous les autres domaines de la vie, les problèmes se posent auprès des jeunes filles. Au lieu d'étudier et progresser avec leurs études, elles veulent seulement se marier avant l'âge. Et lorsqu'on obtient leur diplôme de temps, elles pensent que c'est la fin des études. Au lieu de progresser avec les études universitaires, ce genre de problème vraiment se manifeste souvent dans des milieux ruraux. En effet, tout ce genre de problème de mariage précoce, il faut que le gouvernement congolais mette en place des mesures efficaces pour permettre aux jeunes filles de progresser bien avec leurs études, et cela pour devenir des députés, des ministres, et tous des avocats, bien, car il n'y a qu'une seule voie pour avoir un titre dans la société, c'est d'avoir étudié. Vraiment, c'était là ma petite suggestion. Je vous remercie et bonne journée à vous, vraiment.
Merci à vous, Bindou Maumbi de Masisi. Marcel Boto de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Moi, je voulais faire un constat, parce qu'en 2006, dans la ville de Kananga, aucune femme qui était liée à la députation nationale, même en 2011. Bon, je voulais un peu poser, parce que nous voyons cette année, Madame Nathalie Kambala en train de sensibiliser beaucoup de dames, surtout pour dans les processus électoraux. Le jour du scrutin, vous allez voir, les femmes ne votent pas les femmes. Ça arrive comment? Et je voulais demander encore à l'invité. Il y a un système de cooptation à la dictature provinciale, on coopte les chiffres coutumiers. Pourquoi la CNUS n'a pas prévu de coopter aussi les femmes au cas où elles échouent dans les processus de scrutin? Merci, c'est ça mes préoccupations.
Merci Marcel. Zenon, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, c'est le père Zenon, merci beaucoup. Juste deux parties d'intervention, mais très rapide.
Oui, père Zenon, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
D'accord. Il y a un pays d'Europe qui a réussi à mettre 50%. Je crois que vous connaissez ce pays. Je voulais demander à la maman quel a été le secret pour que dans ce pays, les femmes et les hommes aient un partage équitable. Alors, là, dans cet ordre d'idées, je dis, mais qui a vraiment peur au Congo ici pour que les femmes puissent quand même participer davantage? Ce sont les hommes qui les empêchent ou quoi? Les hommes ont peur des mamans ou comment? Alors, deuxième préoccupation, je me dis, demain, nous ne serons plus là. Il y a des filles qui grandissent 13, 14 ans. À l'intérieur du pays, 13 ans, 14 ans, ça signifie qu'on va dans le mariage. Quel est le programme prévu pour que, à l'intérieur du Congo, les pauvres filles ne soient pas seulement pour le mariage, mais les préparer déjà sur les élections futures? Parce qu'est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un programme de développement dans tous ces coins du pays? Parce que je vous parle en conséquence. J'ai travaillé dans pleine forêt équatorienne là-bas, parfois 70 km, il n'y a pas d'école. Est-ce que le maman y pense aussi pour le futur? Et pour terminer, je me dis, les statistiques, je ne sais pas si c'est vrai, il faut que la maman me dise ce qu'il y a exactement. Est-ce que c'est vrai que dans le pays, notre pays, les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Alors pourquoi est-ce que dans les cas de choix, les mamans ne dominent pas toujours? Et même quand il y a une maman, les mamans ne défendent pas cette maman-là qui se présente. Qu'est-ce qui se passe? Manque de confiance? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà un peu ma préoccupation. Hein. Les mamans pour les mamans.
D'accord.
Il y avait un chef d'État qui disait « Otumoli ba mama, otumoli, voyez bien. »
« Otumoli mabuto, otumoli ba mama. » Voilà.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vrai? Voilà, merci beaucoup.
D'accord, merci Père Zénon. Serge King, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité du jour.
Quelle est votre question?
Oui, le sujet est tellement intéressant, d'autant plus que la période que nous sommes en train de parcourir à cette fois-ci, c'est la prochaine période qui nous intéresse tout le monde. Et ma contribution était, ma préoccupation était de savoir par rapport aux thématiques de la journée d'aujourd'hui, dans des centres urbains, ce que nous parlons aujourd'hui ici, ça peut aller, mais je vous rappelle que dans des zones rurales tellement reculées, c'est tellement difficile. Alors, ma proposition est de savoir, quels sont les rapports à ce qui concerne l'analphabétisation dans la République démocratique du Congo, surtout à la femme qui se trouve au fin fond de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il n'y a même pas de centre de récupération pour que cette femme-là, surtout à la période ici des élections, comment est-ce qu'elle risque de choisir les candidats qui voulait choisir, mais faute de ne pas étudier, elle doit choisir de n'importe quoi. Alors, ma deuxième préoccupation était de savoir pourquoi seulement quand on parle des structures ici présentes dans notre ville, ici de Kindu, quand on parle de char, on ne trouve pas des hommes jarrets, alors que je ne vois pas, quand on parle seulement des jarres, on voit seulement la femme. Et ma dernière préoccupation, en 2015, on parlait de vision 50-50, madame l'invitée peut nous dire où en est-on maintenant avec leur vision 50-50 en République démocratique du Congo. Et je voudrais demander aussi à Jolie Damien Katama de pouvoir me rappeler pour ce qui se passe près de chez vous.
Non, près de chez vous, pas aujourd'hui, c'est peut-être pour la semaine prochaine. Merci d'avoir appelé Serge. Max Apataoulé, vous êtes à Kamina, bonjour. Max, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à madame Anne-Marie.
Rapidement, quelle est votre question, Max?
Oui, j'ai deux questions. La première question, c'est de savoir pourquoi les femmes ont peur d'aller faire face à la magistrature suprême, mais de laisser une seule. Donc, nous avons des femmes intellectuelles dans notre pays capables d'affronter les élections et d'emporter à tous les niveaux. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que madame peut me dire de ces femmes analphabètes, mais se trouvant devant la machine à voter, qui aujourd'hui nous reste 2 mois des élections. N'est-ce pas, la machine à voter sera la magie devant les femmes? Merci beaucoup.
Bien, merci. Madame Annie, Anne-Marie, vous avez la parole. Beaucoup de préoccupations des auditeurs. Mmh. Ouais, je pense que vous aurez le temps de répondre à toutes ces préoccupations.
Oui, je crois bien avec le temps que vous nous accorderez, on pourra bien.
Alors, il y a eu Bindou, voilà, qui est de Massis, qui dit les filles ne progressent pas avec les études, c'est la raison, et ça donne beaucoup plus au mariage précoce, et d'après lui, c'est la raison pour laquelle on a une faible représentation des femmes à tous les niveaux des scrutins.
Ben, ça rejoint toujours le point de vue que j'ai déjà partagé ici du problème de socio-culturel, du problème de socialisation. Les femmes qui n'étudient pas assez, qui se marient de manière précoce, qui constituent elles-mêmes un frein pour leur participation. Moi, je crois que même à ce stade-là, le fait de se marier tôt, aujourd'hui, ne peut plus être un frein pour l'émergence, pour le progrès ou la promotion d'une femme. Parce qu'on connaît quand même des femmes mariées qui vont à l'école, qui reprennent leurs études. Moi, j'ai beaucoup de cas dans le cadre des ONG que nous avons eu à encadrer ou à promouvoir. Mm-hmm. On a eu à promouvoir beaucoup de femmes mariées qui
précocement, mais après, elles ont repris les études.
Qui ont repris les études, qui aujourd'hui sont devenues des D6, d'autres même des licenciés en telle ou en telle autre discipline. Mm-hmm. Et cela ne peut pas être considéré comme vraiment la fin de tout parce que on s'est marié à 13 ans, à 15 ans et qu'on n'a pas pu étudier avant de se marier. Donc pour moi, je ne considère pas ça comme un problème aujourd'hui parce qu'il y a toutes les possibilités pour qu'elle puisse avancer si l'homme qui l'a épousé l'encourage aussi. Parce qu'on a connu aussi des cas où nous avons été même négociés pour que l'homme accepte que sa femme reprenne les études. Mmh. Et quand il commence à faire des calculs, payer les études pour les enfants, payer pour la femme, il faut faire le choix. Donc souvent aussi, c'est ça, il faut que l'homme accepte de faire la promotion de sa femme. Mmh. Donc là, pour moi, je ne considère pas ça comme vraiment un frein réel, parce qu'on peut surmonter cela.
Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, surtout dans le milieu rural, il y a beaucoup plus de femmes analphabètes. Et d'après lui, c'est vraiment un frein pour l'épanouissement de la femme.
Bon, quand on parle de femmes analphabètes dans les milieux ruraux, je suis en train de me poser la question si dans ces milieux ruraux, il n'y a pas d'hommes analphabètes. Parce que vous parlez bien des milieux ruraux où les difficultés sont pareilles. Mmh. Donc, il y a aussi de ces jeunes garçons qui commencent la chasse, qui commencent la pêche
oui, voilà.
Trop tôt. Et le papa ne veut pas laisser son garçon à la maison pendant que lui va à la chasse pendant des mois et des mois. Il va à la chasse avec son père. Donc autant qu'on trouve des femmes analphabètes, autant on trouve aussi des hommes analphabètes. Mais le problème ici, c'est comment est-ce qu'on accompagne toutes ces personnes-là pour que ces personnes puissent aussi arriver à s'épanouir dans leur vie et qu'ils puissent sortir de cet analphabétisme-là pour faire quelque chose. Mmh. Mais je me dis aussi en même temps, le fait d'être analphabète n'enlève pas la sagesse et la capacité de gestion à une personne. Nous allons aller jusqu'aux élections locales. Les élections locales vont nous amener à ce que la population puisse choisir ses dirigeants de proximité.
Serge a dit tout à l'heure que parce que certaines femmes sont analphabètes, elles vont faire un choix, elles ne vont pas faire des choix judiciaux des candidats.
Je ne suis pas d'accord avec, parce que le fait d'être analphabète n'enlève pas la sagesse à ces femmes-là. Mmh. Ce sont ces mêmes femmes-là, analphabètes, qui font élever les ministres, les PDG, les consorts, ces femmes analphabètes. Mmh. Et ce sont ces femmes analphabètes qui insistent pour accompagner leurs enfants à l'école. Et ce sont ces mêmes femmes analphabètes qui conseillent leurs enfants. Donc le fait qu'elle est capable de tenir son ménage, son foyer, tout en étant analphabète, je ne crois pas qu'elle soit incapable de tenir un secteur, une chefferie, un groupement ou une entité territoriale, locale. Mmh. Donc, pour moi, en tout cas, les élections locales sont une opportunité pour que toutes ces femmes que nous sous-estimons en croyant qu'elles sont analphabètes, que ça soit l'occasion aussi pour elles de se mettre à l'œuvre, de pouvoir aussi briguer des postes au niveau local pour qu'elles puissent aussi participer dans la prise de décision dans leur communauté, dans leur milieu.
Alors, Marcel Botto nous a dit qu'en 2006 et 2011, là-bas à Kananga, il n'y a eu aucune femme élue. Alors, il s'est dit que pourquoi les femmes ne votent pas les femmes? D'après lui, je ne sais pas comment il a fait ce constat-là. Généralement, les femmes ne votent pas les femmes.
Oui, c'est un débat. Et un débat réel qui, même dans le milieu des femmes, quand on fait des évaluations sur l'échec, la faible réussite aux élections des femmes, on finit toujours par ce constat-là. Comment est-ce que les femmes sont majoritairement supérieures sur le plan des statistiques par rapport aux hommes, mais comment expliquer que les femmes, les peu de femmes qui se présentent aux élections n'arrivent pas à gagner les élections? Il faut toujours faire la part des choses, parce que au moment des élections, quand nous allons aux élections, le choix de l'individu, c'est un choix libre. Le choix n'est pas lié forcément au sexe, là pour dire que parce que je suis femme, je dois élire seulement la femme. Mmh. La femme qui se présente aux élections, elle est candidate, au même titre que le candidat. D'où elle doit présenter un programme, elle doit présenter quelque chose qui puisse accrocher aussi les électeurs. Mmh. Oui, qui puisse accrocher les électeurs. Donc, en ce moment-là, on la juge non pas comme femme, mais on la juge comme candidat à part entière. Et il y a chaque fois aussi la question des intérêts qui revient chaque fois. Oui. Dans différents débats que cette question a suscité, on vous dit, pourquoi je vais aller élire une femme que je ne connais pas pendant que mon frère que je connais qui va me nourrir quand il sera député est là à côté de moi, oui. Et je vais laisser de lui accorder ma voix pour aller donner à une femme
que je ne connais pas,
qui me donnera jamais un franc quand voilà. J'aurai des difficultés.
C'est tout ça donc, le problème.
C'est toutes ces questions-là qu'il faut considérer.
Oui.
Donc, il ne faudrait pas croire que d'emblée, parce qu'on est femme, on est candidate, d'où on a l'adhésion de toutes les femmes. Non, il faut que tous les autres paramètres aussi puissent concourir pour que vous, en tant que candidate, vous puissiez aussi mettre tout ce que vous pouvez mettre en jeu, un programme, vos qualités, votre capacité de vous intégrer, d'accéder, oui. D'approcher, de proximité.
Alors, Madame Anne-Marie, voilà. Vous avez suivi le père Zénon a dit tout à l'heure, dans certains pays, on a atteint 50-50 dans certains pays. Pourquoi chez nous, on n'arrive pas? Qui a peur des femmes en RDC? Qu'est-ce que vous faites pour préparer les filles, par exemple, aux futures élections? Et il a rappelé même un slogan qu'on a souvent entendu, Automoli Mobutu, Automoli Bamama. Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'après lui?
Bon, pour ne commencer que par ce slogan-là, « Automoli Mobutu, Automoli Bamama », vous voyez très bien ce que ça reflète. Donc, c'est quelqu'un en quête d'électorat. Il sait que l'électorat féminin, c'est l'électorat facile pour l'homme, parce que quand tu miroites toutes ces promesses-là aux femmes...
Voilà. Oui, allez-y, madame.
Oui, quand... Tu miroites toutes ces promesses aux femmes que tu vas payer les études pour les enfants, tu vas faire... Les femmes sont sensibles à tout ce qui touche l'épanouissement ou bien-être de leur famille.
Oui.
Facilement, vous pouvez les avoir. Mais quant au pays, souvent, on a toujours cité la Suède comme étant ce pays modèle vraiment de la promotion des femmes, où les femmes sont partout et ont atteint quand même un niveau là même de 50-50 et consorts. Mais c'est toute une culture. C'est toute une évolution. Et c'est là que nous aussi, dans notre combat actuel, on est en train petit à petit de se battre pour qu'on arrive quand même à promouvoir la femme, pour qu'un jour on puisse aussi être cité parmi ces pays. On peut prendre le cas du Rwanda aussi, ici.
Oui, qui fournit quand même des efforts.
Parce qu'ils ont appliqué la discrimination positive. Mm. Donc, il y a eu des questions de quotas, tout ce qui est dans le paquet là, des discriminations positives, c'est ça qui a permis à ce qu'ils puissent être cités aujourd'hui comme un des pays qui encourage le genre, qui fait la promotion de la femme. Donc, je crois que chez nous aussi, on a besoin quand même qu'on puisse prendre des dispositions, des mesures de discrimination positive là, dans un premier temps, pour permettre à ce qu'il y ait cette promotion de la femme. Et après, maintenant, quand tout sera bien ficelé, que la femme sera déjà bien intégrée dans la participation, dans la prise de décision, le reste, elle pourra se battre comme tout le monde. Mais actuellement, tenant compte de ces pesanteurs que j'ai évoquées
donc
ici,
jusqu'à l'étape actuelle du processus, on peut dire que le genre n'est pas encore...
Il est difficile de parler parité aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
Il est difficile, ça, il faut le reconnaître. Mais vous devez savoir que la CENI, dans sa politique genre, la CENI a élaboré aussi une stratégie genre qui a été partagée avec les réseaux de femmes de différentes filières, les femmes de toutes catégories confondues, qui ont partagé aussi et qui continuent à partager cette stratégie genre de la CENI, qui fait en sorte que à chaque étape de l'évolution du processus, il y a toujours une sensibilisation qui accompagne pour que les femmes puissent être encouragés à participer entièrement au processus, à l'opération, que ce soit lors de l'enrôlement, que ça a été le cas lors du dépôt des candidatures. Et ça continue à être le cas aujourd'hui où nous faisons la sensibilisation sur la machine à voter, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question sur la machine à voter. Donc pour ça, il n'a pas à s'inquiéter, parce que le bulletin, le gros bulletin qui était encore beaucoup plus compliqué, les femmes analphabètes ont pu l'affronter. La loi prévoit que la personne qui ne peut pas voter seule se fait accompagner. Donc les femmes là, si elles
vont aussi manipuler la machine à voter.
Même si elles ne manipulent pas, elles ont la possibilité de se faire
assister ou accompagner.
Là, il n'y a pas de problème.
D'accord. Merci Madame Anne-Marie Amukoyanzo. Je rappelle Pundu. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutive provinciale de la CENI, ville-province de Kinshasa. Nous allons passer à autre chose. On va accueillir Tati Mapuku pour l'agenda électoral.
Journal et agenda électoral.
Tati Mapuku, bonjour.
Bonjour Jody. Deux grandes activités ont dominé l'actualité au niveau de la CENI.
Oui.
Ici à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a lancé le mercredi dernier sa propre radio pour sensibiliser l'ensemble de la population congolaise sur les processus électoraux. Cette radio à caractère national émettra chaque jour sur la fréquence 107.7 FM de 4h30 à minuit heure de Kinshasa, avec 8 programmes et les journaux électoraux diffusés en français, en anglais et dans les 4 langues nationales. Et puis le gouvernement de la RDC a procédé lundi dernier, jeudi, à la remise de la logistique à la CENI pour le déploiement des kits électoraux. La cérémonie a eu lieu au siège de la CENI, ici à Kinshasa, pour la première étape. La seconde étape, qui a consisté en la présentation des avions et hélicoptères, a eu pour cadre l'aéroport international d'Ndjili.
Bien, merci beaucoup Tati pour ce journal électoral, et c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine électoral consacré au genre dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Nous disons merci à Madame Anne-Marie Mukoyanzo et merci à Polydor Bansunga, Tati Mapuku, Marcel Ngomombalakeba, Tina Salama à la supervision au micro, Jody Daniel Keshama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.